CO2 Mon Amour avec le WWF. Changez nos modes de consommation et de production. Plus d'infos sur les dons, legs et assurance vie sur www.wwf.fr.
Je pense qu'il faut montrer qu'aujourd'hui, le but, c'est pas d'être écologique, le but, c'est d'être logique. C'est-à-dire qu'il faut remplacer toutes les vieilles technologies polluantes par des nouvelles technologies propres qui sont plus rentables, qui créent des emplois et qui créent de la croissance. Il vaut mieux aujourd'hui une croissance propre qu'un statu quo sale.
CO2, mon amour.
Vous savez, l'énergie solaire, aujourd'hui, c'est une manière d'acquérir une paix sociale, d'acquérir une richesse nationale, d'éviter des guerres, d'éviter des conflits.
Denis Chessou.
Chacun produit son énergie sur place, l'utilise et en fait profiter les autres.
Bertrand Piccard, cette semaine sur France Inter. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce magazine de nature et d'environnement, CO2 Mon Amour, l'émission qui rapproche les hommes en nous rapprochant de la nature, avec aujourd'hui à la technique Théo Goumard et Nicolas Sivani, et à France Bleu Gironde, ce sera Didier Fouché, assisté de Camille Blanès, que je n'oublie pas, c'est Xavier Pestudja qui réalise l'émission. Ça commence toujours par une petite humeur. Et oui, dès qu'il fait un peu beau et que les températures remontent, eh ben on se dit, ça y est, c'est le printemps. Les téméraires pinsons chantent, les merles se pourchassent entre les buissons. Une abeille décongelée explore les premiers éclats d'or dans les forsythias. On embrasse les tout petits bourgeons. Oui, c'est vrai, les jours rallongent, mais patience, il est encore trop tôt pour la fiesta des sens. On a tellement envie de ce renouveau, un peu d'amour et de chaleur quand on voit s'amonceler le poteau noir à l'horizon. Les égoïsmes et la fureur ont investi, on le sait, la passerelle du monde depuis les cales surchargées de cargos d'immigrants. La terre paraît un peu mal barrée, mais la patience, oui, il faut la débarrer. Ce qu'a très bien compris Donald, notre nouveau porteur d'urbanisme, quasi copain de Poutine, qui à eux deux enjamberont l'Union européenne. Union européenne qui a trouvé un nouvel argument, un poil fallacieux pour résister à l'Amérique trumpienne, le CETA. Ah, le CETA, très bien. Mais qui va peut-être un peu plus réchauffer la planète. On ne sait pas. Et alors, attendez, là je pointe juste sur une petite chose. Sur 1349 produits de terroirs recensés, combien le CETA en reconnaîtra? J'attends une réponse. 173 indications géographiques, donc ami paysan qui est déjà dans le dur, bah bonne chance que ça, on ne l'a peut-être pas complètement dit. Je reviens à Trump. George Orwell, en 1948, avait inventé, dans 1984, un régime qui imposait à tous une autre réalité, un autre passé. Eh bien, la post-vérité, les faits alternatifs sont aujourd'hui en marche. Un climato-sceptique à la tête de l'Agence de protection de l'environnement des États-Unis est là pour nous détricoter un peu plus le climat. Une maille à l'endroit, mais surtout à l'envers. Un pullover avec de la laine de charbon, des aiguilles à tricoter en forme de pipeline XXL. Alors à quoi bon écouter les scientifiques? Goldman Sachs à tous les étages, je te nique. Les États-Unis sont une entreprise, le monde est une entreprise, fonçons comme une entreprise et vive le Titanic. Après la nomination de Scott Pruitt, donc ami des hydrocarbures responsable, dont le but sera de virer tous les obstacles environnementaux dans son agence. À côté, ben, nos gentils vieux climato-sceptiques français, ben, à côté, c'est presque Al Gore, vous voyez, c'est pour vous dire. Et pendant ce temps, qu'apprend-on cette semaine, tout là-haut, dans les montagnes, que vous qui revenez peut-être, amis auditeurs de la neige, eh bien que les glaciers alpins fondent à une vitesse, à une allure de GTGV, glacier à très grande vitesse. Ils font de la luge encore plus rapidement que pensaient les glaciologues. Ils tirent la langue et bientôt les glaciers n'auront plus que leurs yeux pour pleurer. Mais pour pleurer quoi? Alors le printemps viendra, c'est sûr. Quand les hommes d'affaires auront fini de mettre en coupe réglée ce qu'il reste de beauté sauvage, il nous faudra bien faire avec ce qu'ils auront laissé. Nous le ferons, même si rien ne va plus. Les jeux ne sont pas faits. Et vigilance. Des vagues de fond se lèvent. Alors ce ne sont pas des clapotis. Dans le fond des consciences chantent déjà les colibris. Amandiers et mimosas sont en fleurs. Patience, oui, il reviendra bien un jour le temps des cerises. Au menu de cette édition, donc il y aura ce débat sur le compteur Linky, parce que vous avez été très nombreux depuis à peu près un an et demi à me dire « Ah tiens, quand est-ce qu'on pourrait faire une émission dessus ?» Alors on va essayer de débroussailler un petit peu les choses, je ne pense pas que vous soyez satisfait à la fin, mais enfin, on va essayer. Et puis il y aura Jean-Marie Pelt pour apaiser le tout, on va le dire avec des roses, on va le retrouver pour nous raconter l'histoire de la rose, ça va nous faire le plus grand bien. Et sans plus tarder, une actualité qui est d'ailleurs aussi un petit peu électrique, c'est sur l'autoconsommation. Bonjour Frédéric Danhé.
Bonjour Denis Chessou.
Vous allez bien Frédéric Danhé? Oui.
Mais ça va bien, et vous-même?
Votre nord natal va bien aussi, tout va bien?
Bon, il va bien, il pleut pas, il fait du soleil.
C'est parfait. Donc, on avait parlé de l'autoconsommation déjà en juin 2016, parce que là, le gouvernement Ségolène Royal avait lancé donc, cette idée d'autoconsommation électrique, d'ailleurs aussi avec EDF. Il restait donc des ordonnances à voter. Donc, le Sénat a voté le 15 février cette ordonnance qui autorise, j'allais dire, enfin l'autoconsommation, c'est-à-dire que on peut consommer ce que l'on produit avant de vendre donc le surplus. Bon, c'est quand même, là aussi c'est intéressant parce que ça change complètement la donne.
Ça change complètement la donne, Denis. On arrive à l'essence même de l'intérêt d'avoir des énergies renouvelables. Jusqu'à présent, effectivement, on avait tout intérêt à vendre au prix le plus élevé l'électricité qu'on produisait pour ensuite la racheter pour l'utilisation personnelle à un prix bas. Du coup, les panneaux photovoltaïques sur les toits avaient tendance à être des placements financiers, c'est si ça. Vous voulez, et un peu déconnectés de l'intérêt d'avoir des énergies renouvelables, qui est quand même de les consommer. Et puisque ces énergies renouvelables sont intermittentes, de consommer toujours moins. Or là, avec l'autoconsommation, il y a un principe qui est simple, c'est dans la mesure où je suis maintenant autorisé à consommer l'électricité que je produis, sachant que l'électricité que je vais produire est intermittente, elle n'est pas en quantité phénoménale, je vais forcément consommer moins. Et ça, voilà, c'est ça l'intérêt véritable des éoliennes, des énergies renouvelables, c'est que ça nous apprend. Dès lors qu'on les consomme directement, ça nous apprend à consommer moins. Donc c'est le double bénéfice. Un, on développe les énergies renouvelables. Deux, on baisse la consommation. Et enfin, dans un cadre réglementaire qui vient enfin d'être voté par le Sénat.
Et alors tout le monde en fait ne va pas pouvoir évidemment produire autant d'électricité pour vivre, parce qu'il faut quand même en gros 60 mètres carrés pour sortir 10 kWh en crête. Donc c'est pas si simple que ça. Mais l'intérêt, c'est peut-être de se regrouper aussi sur cette affaire.
Oui, c'est ça. C'est effectivement, tout le monde ne pourra pas produire autant qu'il n'a besoin, quand bien même on consommerait moins. Évidemment, l'intérêt, et ça c'est dans la loi aussi, c'est de produire ensemble, c'est-à-dire sur plusieurs toits, c'est-à-dire autour du toit gigantesque de l'hypermarché, c'est de produire et d'autoconsommer ensemble. Et là aussi, un cadre réglementaire a été posé par le Sénat, et ça c'est intéressant, parce que si vous voulez, il y a plein de sites sur le web qui permettent de savoir, qui permettent de faire un cadastre solaire, si vous voulez, et qui permettent de savoir ce qu'on peut produire là où on habite. Et on voit bien qu'en étendant à la parcelle d'à côté, souvent le rendement est bien supérieur. Donc voilà, ça facilite la mutualisation de la production pour une mutualisation de la consommation. Et c'est le troisième effet bénéfique des énergies renouvelables, c'est cette mutualisation, cette coopération. On n'est pas tout seul et on ne peut pas être tout seul, on est un peu obligé de penser aux autres et ça c'est très bien.
Et derrière, évidemment, ça va complexifier un petit peu les choses, donc en ce qui concerne le réseau en France.
Évidemment, parce que Enedis, jusqu'à présent, avait un réseau qui était sain. Vous aviez des grandes centrales de production, comme les barrages ou les centrales nucléaires, qui étaient reliées directement, ou presque, aux consommateurs. Là, maintenant, on aura une multitude de moyens de production qui vont déverser leurs électrons quand ils en auront envie, et qui viendront chercher des électrons quand ils ne produiront plus assez, quand ils en auront envie. Donc, pour Enedis, ça va être un enfer à gérer, d'un point de vue d'infrastructure.
Ça, c'est leur boulot d'ingénieur, oui.
Ça, c'est leur boulot d'ingénieur, puis d'un point de vue informatique. Du coup, ça justifie pour le gouvernement l'installation des compteurs Linky qui ne sont jamais que des portes qui s'ouvrent et qui se referment dans les deux sens.
Et qui pose évidemment des problèmes, c'est pour ça aussi, il y a des interrogations, c'est pour ça aussi qu'on va en parler juste après. Donc, voilà.
Et c'est un vrai changement. Linky est le symbole d'un vrai changement, c'est-à-dire avec le développement des énergies renouvelables, on va vers chacun peut être son producteur parce que chacun peut être son consommateur, mais ça impose d'avoir un contrôle sur ce qui rentre et ce qui sort dans chaque compteur. Donc on peut voir ça comme du flicage, mais on peut difficilement faire autrement si l'on prétend développer les énergies renouvelables et l'autoconsommation.
Voilà, donc on parlera aussi donc de ce côté démocratique avec Stéphane Lhomme, qui va bien sûr nous rejoindre tout à l'heure aussi, avec Gladys Larose, elle pour Enedis, et Stéphane Lhomme, parce que c'est quelqu'un qui est anti-Linky, qui va donc pouvoir exposer aussi ses arguments. Mais en tout cas, cette idée d'autoconsommation quand même est une avancée, disons-le, incontestable. Voilà.
Oui, c'est une avancée incontestable. Quand on tire le fil du développement des énergies renouvelables, on en arrive forcément à ça. Et puis ensuite, avec tous les développements qu'il y aura derrière, c'est-à-dire qu'à un moment ou un autre, il faudra équiper les maisons de batteries. Voilà. Et puis, si ce n'est de batterie, de voiture électrique. En fait, on se rend compte à l'aune de tout cela que la voiture électrique, c'est sans doute la meilleure batterie qui existe. existe, parce qu'elle, on sait déjà la faire, et qu'elle pourrait demain recharger la maison le soir, qu'elle pourrait demain recharger le réseau si tant est qu'Enedis en aurait besoin.
Cher Frédéric, vous restez peut-être avec nous, vous allez écouter ce débat, je pense, vous restez là, vous ne sortez pas tout de suite de chez vous. C'est très bien, merci beaucoup. Et Véronique Sanson, vous n'avez rien contre?
Ah non, pas du tout.
Ça tombe bien, parce que nous non plus. Voilà, ces moments-là, c'est notre première chanson choisie par Muriel Pérez. Vous êtes bien sur France Inter. Je veux une envie de vivre, bien sûr, sur France Inter. Ces moments-là, c'était Véronique Sanson. Je vous souhaite le meilleur cet après-midi. Peut-être que vous nous écoutez en voiture, je ne sais pas. En tout cas, faites attention. Nous allons parler du Linky. C'est quoi cette bête? Eh bien, on va le découvrir.
Ah, mais écoutez, monsieur, il faut venir au bureau pour remplir une demande de branchement.
Mais j'ai pas besoin de remplir une demande. Quand j'ai fait installer la lampe à pétrole, et on m'a rien demandé du tout. J'ai acheté ma lampe, j'ai mis le pétrole, j'allume et ça fait la lumière.
Ah, d'accord, une lampe à pétrole, mais pour l'électricité, c'est différent, monsieur. Il faut vous poser les compteurs.
Et quel compteur? Pourquoi faire un compteur?
Pour amener le courant, monsieur.
Mip, mip.
Eh ben voilà, c'est un petit coup de Francis Blanche, ça nous fait tout à fait plaisir. Alors, accusé, levez-vous, quel est votre nom? Linky. Votre profession, compteur électrique fabriqué en France. Est-ce que vous avez des frères et des sœurs? Oui, j'en ai déjà 2 millions qui sont installés et bientôt 35 millions au total déployés d'ici 2021. Combien vous coûtez? 5 milliards au total. Votre caractéristique? Je suis un compteur dit intelligent, contrairement au compteur bleu qui était très joli mais à qui il manquait des neurones. Ah bon, d'accord. À qui appartenez-vous? Eh ben, le compteur, en fait, il appartient pas au client, non, non. Il appartient au collègue. collectivités locales. Ce sont elles qui sont les propriétaires des compteurs. Et puis après, ça a été transféré aux syndicats intercommunaux d'électrification. Et puis, donc, Enedis, ancien ERDF, qui s'est rebaptisé, les exploite dans le cadre d'une concession au même titre que les réseaux. Alors, Linky, outil diabolique pour notre santé, outil inquisiteur, outil antidémocratique, ou bien outil de la transition énergétique bien plus futé que notre compteur bleu. C'est ce que nous allons essayer de débroussailler avec Gladys Larose, qui est chargée de mission Linky, et Stéphane Lhomme, qui est avec nous aussi donc en direct depuis France Bleu Gironde. Nous remercions nos amis qui vous accueillent, militant anti-Linky, président de l'Observatoire du nucléaire et conseiller municipal de Saint-Macaire en Gironde, donc 2000 habitants, une des toutes premières communes à avoir dit non au compteur Linky. Et donc, il y a aujourd'hui pas mal de gens, on verra, mais qui sont contre ce compteur. Et on va surtout essayer de comprendre pourquoi et aussi quels sont les bienfaits. Moi, j'ai envie de commencer peut-être. On va essayer d'aborder à la fois les avantages, les inconvénients, ce que j'ai dit, le côté démocratique et aussi donc le côté santé. Alors, le côté santé, on a vu beaucoup de choses pendant les... Et puis là, ça s'est un peu plus calmé, j'allais presque dire sur le net. Qu'est-ce que l'on peut dire? Alors, je ne sais pas, Stéphane Lhomme, est-ce que vous avez envie de prendre cela? Je sais que ce n'est pas le sujet peut-être numéro un que vous abordez, mais quand même, aujourd'hui, quelle est peut-être votre réaction, Stéphane Lhomme, par rapport aux inquiétudes que peuvent avoir les uns et les autres?
Oui, d'abord, bonjour à tout le monde. Effectivement, vous le rappeliez, j'interviens dans cette affaire en tant que conseiller municipal de ma commune, mais aussi en tant que père de famille, de deux enfants de 10 et 7 ans. Et donc, c'est à ce titre que je me suis engagé parce que j'ai la charge de préserver le bien-être de mes administrés et puis, tant qu'à faire, de mes enfants et des enfants des autres. Et les libertés publiques en particulier, parce que effectivement, on va le voir, on va en parler, le système, le programme Linky est un programme totalitaire. Des gens ont décidé d'entrer dans nos communes et jusque dans nos propre logement, en nous disant de nous taire, qu'on n'a rien à y dire et qu'il faut qu'on baisse les yeux, et qu'ils vont venir poser leur appareil pour faire leur business. On va parler du big data, des objets connectés, et que finalement, tout ce qu'on nous met en avant, c'est-à-dire c'est pour avoir des factures précises, pour pas être obligé d'être présent pour la relève annuelle, pour faire des économies, ça c'est une blague bien entendu, et bien tout ça... Eh bien, c'est un paravent pour, en réalité, tout le business, ce business qui est derrière le fameux Big Data, qui consomme déjà plus de 10% de l'électricité mondiale. C'est la captation de toutes les informations possibles, imaginables sur nos vies, toutes les informations, nos modes de vie, nos modes de consommation, etc. Et puis, le business des objets connectés, on va voir que les sociétés qui installent les compteurs communicants sont en lien avec les sociétés d'objets connectés, dont une qui est dirigée par Madame Lauvergeon, qui a fait tellement de mal déjà à la France. Et donc, quand on nous annonce compteurs en nous disant que ça va améliorer notre vie, évidemment, c'est tout à fait contestable. Bon, alors, sur la question des ondes électromagnétiques, c'est une des problématiques.
Tout à fait, bien sûr.
Je l'ai dit, il y a surtout la question de la vie privée qui est mise en cause. Mais pour les ondes... À nouveau,
parce qu'on explique quand même un petit peu aux gens.
Je rappelle que l'Organisation mondiale de la santé met en cause l'exposition prolongée et même faible, même à un niveau faible, aux ondes électromagnétiques en disant que, évidemment,
c'est potentiellement cancérogène.
Et que, il est hors de question pour moi de laisser mes administrés, mes enfants, servir de cobayes pour voir dans 5, 8, 10, 15 ans combien on a de cancer.
Alors, donc, effectivement, c'est classé potentiellement cancérogène par l'OMS. L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, a conclu, c'était le 15 décembre, en disant que ce compteur Linky, donc ça n'émettait pas plus d'ondes électromagnétiques que tous les équipements électriques qui équipent nos foyers. Moi, je reprends leur phrase. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est beaucoup moins qu'un portable, c'est 800 fois moins qu'un grille-pain, 120 fois moins qu'un fer à repasser. Voilà, c'est-à-dire que le problème, c'est qu'on est dans une confusion, on va dire, d'ondes en général. Qu'est-ce que l'on peut dire, Gladys Larose, donc chargée de mission Linky, sur le problème de la santé? Parce que, alors, évidemment, si on est électrosensible, de toute façon, ça va rajouter à cela. On a vu des témoignages de gens qui n'étaient pas électrosensibles et qui, après la pose d'un compteur Linky, ont eu des soucis. Voilà, je regarde un peu la prose un petit peu partout. Qu'est-ce que l'on peut dire sur ce thème-là, Gladys Larose?
Eh bien, écoutez, bonjour d'abord. Merci de nous avoir invités aujourd'hui. Sur ce sujet de la santé, ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, on est sur un appareil qui est comparable aux appareils électriques de la maison et qui est surtout comparable au compteur dont tout le monde est déjà équipé. C'est-à-dire que ce soit l'Agence nationale des fréquences, que ce soit l'Agence nationale de la santé, qui sont des organismes indépendants, je le rappelle, qui ont fait des mesures, qui ont mis plusieurs mois à établir leur rapport, ils sont tous catégoriques sur le fait qu'à la fois ce compteur émet un champ électromagnétique qui est extrêmement faible. Hein, pour la petite anecdote...
0,1 volt par mètre.
Voilà, pour la petite anecdote, l'Agence nationale des fréquences a dû acheter des équipements spéciaux pour réussir à mesurer quelque chose parce qu'ils n'arrivaient même pas à mesurer quelque chose.
Votre donc, box internet est beaucoup plus puissante, hein, faut juste le savoir ça.
Voilà. Oui. Et donc, on est sur un appareil qui n'amène pas de champ électromagnétique supplémentaire dans les foyers, qui est équivalent au compteur dont tout le monde est équipé aujourd'hui.
Alors, maintenant, ce que je vous propose, alors c'est évident que, comme on a un certain nombre de sujets, certaines et certains donc, qui nous écoutent, disent, mais attendez, moi, depuis que j'ai Linky, bah, ça va plus, on l'entend bien, cela. Et je rappelle qu'aujourd'hui, on a à peu près 1400 électrosensibles qui ont été recensés, il y en a peut-être davantage. Et que, oui, dans ce genre de cas, eh bien, ça ne va pas forcément donc, arranger les choses. Ce qu'il y a surtout, c'est qu'on ignore tout du brouillard aujourd'hui d'ondes diverses et variées qui se superposent aujourd'hui dans nos appartements. Et là, c'est vrai qu'on joue les cobayes, mais je veux dire que c'est, est-ce que c'est directement que le compteur Linky? Moi, j'ai un gros point d'interrogation là-dessus, parce que voilà, c'est pas, je veux dire, l'agence l'ANSES, c'est pas complètement des inconscients. Ils ont été aussi parmi les premiers donc à parler des perturbateurs endocriniens. Donc on n'a pas intérêt a priori donc à avoir un nouveau scandale de l'amiante à travers ces ondes-là. Alors il y a d'autres sujets qui sont tout à fait intéressants et là aussi Stéphane, vous allez pouvoir réagir. Ce que l'on dit souvent, je commence par vous Gladys Larose et après bien sûr vous réagirez Stéphane Lhomme, on dit qu'au départ ce compteur Linky c'est évidemment plein d'avantages, d'abord pour Enedis, peut-être pas pour le client mais d'abord pour Enedis parce que vous allez pouvoir faire des opérations de maintenance à distance, si par exemple si on veut changer de puissance de compteur, eh ben, on pourra pouvoir le faire à distance, on va pouvoir avoir une facture sur la consommation réelle et non pas présupposée, lorsque vous avez un déménagement, bah, avant il fallait plus ou moins attendre le technicien, enfin plutôt plus qu'au moins dans certains cas, bon là ça va aller plus vite. Donc ça va être des gains, effectivement, pour Enedis. Soyons clairs, c'est ça qui...
Alors, quel est le rôle d'Enedis? Enedis, c'est l'entreprise qui amène l'électricité dans chaque maison, chaque appartement, chaque foyer. Donc quand on dit ça va améliorer le réseau d'électricité et la distribution d'électricité, ça veut dire qu'on travaille pour l'amélioration, la modernisation de ce réseau d'électricité, qui dessert chaque habitation. Et c'est vraiment ça l'intérêt de ce compteur Linky, c'est tout le travail d'Enedis. Hein. Enedis, c'est l'entreprise qui est intervenue là, dans les dernières tempêtes pour relever le réseau quand plus personne n'avait l'électricité. Et quand on fait ce genre d'opération, évidemment, tout le monde est d'accord pour qu'on intervienne sur les câbles, sur les compteurs, etc.
Alors, quelles sont les données, si vous voulez, que vous allez pouvoir recapter et qu'est-ce que ça va permettre? C'est ce qu'on entendait là aussi assez bien avec Frédéric Dant, et c'est qu'il y a un moment, bah oui, il va falloir des données si on veut passer à la transition énergétique. Donc, qu'est-ce que vous allez pouvoir récupérer en matière de données? Et après, bien sûr, Stéphane Lhomme va réagir.
Alors, ce qu'on va aller récupérer, le compteur Linky, il enregistre la consommation globale d'un foyer.
Donc, global, c'est ça.
Tout comme les compteurs actuels, en fait. La différence, c'est qu'aujourd'hui, bah, comme on n'est pas capable de récupérer à distance ces informations-là, on envoie une ou deux fois par an des techniciens la récupérer. Là, on va être capable de la récupérer une fois par jour. Mm-hmm. Donc ça, c'est la première des avancées avec ce compteur Linky. Ça va permettre quoi? Ça va permettre en effet aux consommateurs déjà de pouvoir avoir accès à cette information, de pouvoir comprendre comment ils consomment dans une journée, dans une semaine, de se dire, tiens, je veux faire des efforts, je veux... pendant une semaine, dire aux enfants, tout le monde éteint la lumière, débranche les appareils en veille,
oui, attendez, là, les chargeurs. Là, ça va être global. C'est-à-dire qu'on va parler tous les jours forcément sur son compteur Linky. C'est pas le truc qui va être...
C'est pas sur son compteur Linky. On met à disposition un espace internet où les clients vont pouvoir voir. Alors, c'est matérialisé avec des petites barres. Mmh. Et ils vont pouvoir voir que le lundi, la petite barre, elle fait une certaine taille. Que le mardi, tiens, qu'est-ce qui s'est passé? La petite barre, d'un coup, elle a décollé. Elle est deux fois plus importante que le lundi. Ah bah oui, bah, qu'est-ce qui s'est
passé? Mais je ne sais pas si ce sera le lave-linge, le chauffe-eau, les ampoules.
Non, on n'est pas capable, d'accord, avec juste le compteur, de voir la distinction entre les appareils. Mais on est capable de voir ce qui se passe dans la journée. Le client peut nous dire, moi je veux voir ce qui se passe dans une journée, heure par heure, demi-heure par demi-heure même. Et en voyant comment ça évolue dans la journée, comment ça évolue d'une journée à l'autre, il va pouvoir se dire, tiens, à ce moment-là, on a fait des efforts, et tiens, je vois ma consommation qui diminue.
Et ça veut donc dire que derrière, ça peut être des offres tarifaires, ça veut dire aussi qu'éventuellement, vous allez pouvoir, donc, entre guillemets, il peut y avoir des start-up qui vont se greffer après pour pouvoir imaginer différents produits.
C'est tout à fait ça, en fait. Ce sont des clients qui vont... d'un coup, se dire, moi, je veux m'intéresser à ma consommation d'électricité, je veux qu'elle diminue. Et donc, nous, on donne un premier accès à des informations qui sont intéressantes, qui sont méconnues aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? On a sa facture d'électricité, on n'y comprend pas forcément grand-chose. Donc,
vrai.
Je vais pouvoir me poser, je vais pouvoir regarder comment je consomme dans une semaine, dans une journée. Et puis derrière, effectivement, ça peut être des offres tarifaires qui sont en train d'être conçues, qui vont être améliorées. Et il y a quelque chose d'important, c'est que les compteurs actuels ne permettent pas de faire ça. On a vraiment besoin de ces nouveaux compteurs.
Surtout si à terme, un de ces jours, peut-être qu'on n'aura pas de tarifs régulés. Alors Stéphane Nob, ce que vous reprochez quand même pas mal, c'est que c'est le côté imposition de cette affaire. Au départ, on a une directive européenne qui après est déclinée dans le droit français, puis après, donc, dans une loi de transition énergétique qui, effectivement, donc, impose le compteur Linky. Vous avez beaucoup de mal avec ça, donc racontez-nous. Qu'est-ce que vous craignez, justement, par rapport à ces données et donc par rapport à ce qui se passe actuellement?
Alors déjà, je rappelle qu'il y a trois programmes de compteurs communicants, Linky pour l'électricité, Gaspar pour le gaz et les compteurs communicants d'eau. Et d'ailleurs, sur la question des ondes, il faut rappeler que tout ça va s'ajouter. Il y aura tout un tas d'appareils dans les rues de la commune pour capter les informations, les transporter, les renvoyer par téléphonie mobile. Moi, j'ai un transformateur de quartier d'Enedis sous ma fenêtre. Je veux pas que les ondes repartent en traversant la chambre de mes enfants. Et par ailleurs, ce n'est pas le compteur lui-même qui émet des ondes dangereuses, mais c'est bien ce qu'il envoie dans les fils du logement qui crée un rayonnement. Et ça, évidemment, Enedis ne le dit jamais. Alors effectivement, vous le dites, on a affaire à un programme totalitaire. Ces gens ont décidé d'entrer dans nos maisons pour poser les compteurs en nous racontant que ça allait nous arranger la vie de manière extraordinaire. Alors tous les experts disent déjà que avoir accès à la courbe de consommation avec 24 heures de retard sera d'une inefficacité absolument nulle, puisque évidemment, à part peut-être au début par effet de curiosité, personne va aller voir le lendemain la courbe en disant voyons à quelle heure j'avais mis ma machine à laver et ci et ça. Et de toute façon, si on veut faire des économies d'énergie, on sait très bien comment il faut faire. On a eu l'exemple de la fameuse campagne de la chasse au gaspillage dans les années 70. La formation et l'information des citoyens par des spots télévisés, tout un tas d'informations, avaient eu un effet extraordinaire jusqu'à ce que EDF tape du poing sur la table et dise on arrête tout, parce qu'effectivement les gens économisaient l'électricité, l'énergie, avec tout un tas de gestes au quotidien. Et c'est certainement pas avec des compteurs communicants qu'on va y arriver. Et d'ailleurs, l'ADEME elle-même est allée voir ce qui se passait dans d'autres pays qui ont déjà été dotés. J'ai noté en particulier une expérience, une étude en Australie où on a vu qu'il y avait effectivement 10% d'économie deux mois après qu'on ait mis les compteurs communicants, mais c'était 5% au bout de 4 mois et 0% au bout de 6 mois, tout simplement parce que les gens, quand on leur a mis leur compteur, eh bien, on modifie leur comportement, on fait attention, ils se sont sentis dans une situation expérimentale. Et puis, au fil du temps, évidemment, la vie a repris son rythme normal. Et puis, l'effet compteur s'est évanoui. Et donc, le compteur lui-même ne permet strictement aucune économie d'énergie. Par contre, ça va permettre aux producteurs, eh bien, de nous établir des grilles tarifaires qu'on va pouvoir comparer, si vous voulez, à la téléphonie mobile, où rien ne sera justement comparable, on ne saura pas qui est moins cher que l'autre, etc. Le compteur, je suis furieux d'entendre dénigrer les compteurs actuels. On a des compteurs électromécaniques qui sont des machines absolument extraordinaires, qui peuvent durer 60, 70 ans, qui marchent à la perfection, qui ne posent aucun problème. Et d'ailleurs, je dénonce un problème environnemental très grave, puisqu'on va se débarrasser de 81 millions de compteurs en parfait état de marche, à 35 millions pour l'électricité, 35 millions pour l'eau, 11 millions pour le gaz. Alors on nous dit on va les recycler, mais on doit recycler des appareils en fin de vie, des appareils cassés, cela peuvent durer encore des décennies, et on va nous mettre à la place des compteurs qui vont nécessiter des milliards, non milliards, Linky, c'est 5, 6, 7, 8 milliards, on verra la vraie facture à la fin.
C'est peut-être pas un EPR, c'est
des appareils
la même chose,
qui ont une durée de vie beaucoup plus courte que les compteurs actuels.
Une vingtaine d'années maximum.
Des témoignages devant le congrès des USA, des sociétés qui mettent des compteurs communicants aux USA, les sociétés ont reconnu que la durée de vie va être de 5 à 7 ans. Donc tous les 5 à 7 ans, il faudra ressortir 5, 6, 7, 8 milliards. Et imaginez les quantités astronomiques de matières premières et d'énergie qu'il faut, en plus des milliards, évidemment, milliards, pour fabriquer tous ces compteurs. Donc, on peut dire que non seulement le programme Linky n'est pas un programme écologique et ne fera absolument aucune économie d'énergie, mais en plus, c'est un désastre environnemental et financier que, une fois de plus, ce sont nous, les citoyens, qui allons payer la facture sur le plan de notre santé, le plan de nos finances,
vous relancerai...
alors que les bénéfices seront peut-être certainement pour Enedis ou pour tout un tas de sociétés privées qui attendent impatiemment la pose de ces compteurs
pour faire leur
business dans le cadre du big data.
Mais alors bon, je vais vous relancer sur la transition énergétique quand même dont on a parlé. Alors, il y a eu effectivement pas mal de choses. Gladys Larose, je vous en prie. Alors déjà effectivement sur le recyclage quand même de tout cela, c'est pas idiot du tout comme réaction. Donc qu'est-ce que l'on va faire de ces merveilleux fichus compteurs bleus?
Ben, on va les recycler. Hein. Enedis a évidemment prévu.
Faire, ça, c'est comme les centrales. Vous savez,
oui. Enedis a évidemment prévu de recycler ses compteurs. On fait pour ça appel à des entreprises spécialisées pour valoriser.
C'est la première fois qu'elles vont faire. Enfin, pratiquement, non.
On change quand même les compteurs régulièrement. On en change 1 million par an, hein, quand même, des compteurs, parce que ils sont
quand même
très vieux.
Alors, qu'est-ce qu'ils deviennent, ça? Ce qui est intéressant, c'est cela. Qu'est-ce qu'ils sont effectivement donc là-dessus?
Donc, on va récupérer, valoriser 90% des compteurs. On travaille d'ailleurs, et ça me permet de saluer le travail des entreprises avec lesquelles on a pu mettre en place des vrais partenariats, des entreprises du secteur protégé. Il faut quand même le dire, Linky et ce programme, c'est 10 000 emplois qui ont été créés sur le territoire. C'est des entreprises qui tournent, 6 entreprises qui tournent. Ce sont des entreprises de pose et des techniciens qui ont été formés, qui ont été habilités. Ce sont des entreprises du secteur protégé qui sont en train de recycler, de valoriser les anciens compteurs. Et c'est surtout la modernité, il faut le redire aussi. Vous parliez tout à l'heure dans l'émission d'autoconsommation. Et moi, je tiens à rappeler quand même que le compteur Linky, c'est vraiment, vraiment très important pour l'autoconsommation. Parce qu'aujourd'hui, quand quelqu'un veut devenir producteur et autoconsommateur, eh bien, on doit lui installer un deuxième compteur. Parce que les compteurs actuels sont incapables de compter à la fois la consommation et la production.
Stéphane Lhomme, justement sur ce sujet, ça c'est tout à fait intéressant. C'est-à-dire qu'on parle quand même de transition énergétique. On est bien d'accord, la meilleure électricité, c'est celle que l'on ne consomme pas. On a fait des tas de gestes, il y a eu les gaspilles, etc. Et tout. Bon, qu'est-ce que l'on constate aujourd'hui? C'est que dans le monde industriel, on a réussi à faire des économies, peut-être parce qu'il y a eu la crise dessus, mais dans le domaine des particuliers, c'est pas exactement ça. On est plutôt de l'ordre de 1%, parfois à 2% d'augmentation par an. Bon, avec tous les produits connectés que nous avons les uns les autres. Comment est-ce que l'on pourrait, d'après vous, Stéphane Lhomme, envisager une transition énergétique sans ce type de compteur?
Eh bien, écoutez, pour l'autoconsommation, par exemple, ça fonctionne depuis des décennies dans différents pays qui ont misé sur les énergies renouvelables, contrairement à la France, sans l'ombre d'un compteur communicant. Donc, une fois de plus, nous dire « Ah, on ne pourrait rien faire sans ce compteur Linky, vraiment, la vie serait impossible sans lui », c'est une plaisanterie. Il suffit de voir comment ça fonctionne déjà. À nouveau, les compteurs actuels sont extrêmement performants. Ils ne posent aucun problème. Nous, on veut garder ces compteurs et il n'y en a absolument pas besoin pour développer les énergies renouvelables. D'ailleurs, on a le contre-exemple de l'Allemagne qui fait 100 fois plus d'énergie renouvelable que la France et depuis plus de 25 ans et qui n'a pas de compteur communicant et qui a décidé de les réserver uniquement aux très gros consommateurs, aux usines, aux entreprises et pas de les mettre chez les habitants. Ce qui prouve bien que quand on veut nous mettre ce compteur dans notre logement, c'est certainement pas pour les prétextes qui nous sont mis en avant, mais bel et bien pour le business de toutes les entreprises.
Alors,
qui attendent impatiemment la pose de ces
Gladys
compteurs.
Larose, en ce qui concerne l'Allemagne, a priori, moi, ce que j'ai vu, c'est qu'il y avait 11 millions de compteurs communicants. Alors, effectivement, je ne sais plus si c'est au-dessus d'une consommation de 3500 kW ou 6000 kW par an, mais où en est-on?
Alors, justement, sur l'Allemagne...
Qui n'est pas déployé partout, ça, c'est sûr.
Oui, enfin, qui va être déployé partout. En fait, l'Allemagne a pris un petit peu de retard pour des raisons strictement économiques. En Allemagne, il y a 800 Enedis. Ils ont un compteur qui a une durée de vie qui était beaucoup plus courte que celle du compteur Linky, qui est d'au moins 20 ans. D'ailleurs, je me permets de le rappeler. Donc, c'est des compteurs qui vont durer au moins 20 ans et pas du tout 5 ou 6 ans. Donc, en Allemagne, ils avaient choisi des compteurs qui avaient une durée de vie plus courte, 800 Nissan Enedis, donc pour des raisons économiques, ils ont choisi de ralentir un petit peu. Ceci étant, ils vont installer 11 millions de compteurs et ils prévoient bien d'ici à 2021 d'installer des systèmes communicants, des compteurs communicants ou des systèmes supplémentaires pour équiper leurs clients et justement pour les producteurs d'énergie renouvelable, pour les gros consommateurs et pour l'ensemble des clients. On a besoin de ce genre de système quand on veut développer les ENR et on en a besoin pour le réseau d'électricité, mais c'est aussi une énorme économie pour les clients. Aujourd'hui, un client qui veut mettre un panneau solaire sur son toit, c'est en moyenne 500 euros pour faire installer un deuxième compteur.
Avec et là, il l'aura pas?
Et ben là, c'est gratuit. C'est-à-dire que quand on remplace son compteur Linky, après, il est capable de compter la consommation et la production. Donc, c'est une économie moyenne de 500 euros. J'appelle quand même tous les clients qui ont envie de devenir producteurs d'énergie renouvelable à être sensibilisés à cette question.
Stéphane Lhomme, moi, je vais vous citer ce que disait donc le président d'Enedis. C'était en juillet 2016, donc Philippe Onloubou, et qui effectivement avait dit que Enedis est un opérateur big data qui gérera bientôt 35 millions de capteurs. Bon, et là, c'est que ça vous a fait un peu rebondir. On peut se dire que c'était une déclaration peut-être assez parfaite pour mettre le feu aux poudres d'un point de vue communication et de côté oxygène, c'était plutôt gagné. Bon, mais parce que les gens ne comprennent, si vous voulez, on va y avoir intrusion chez moi, qu'est-ce qui va se passer? Donc, quelles sont les craintes que vous voyez, vous, autour de vous par rapport à cela?
Alors effectivement, c'est un point que je mets en avant dans les conférences que je fais à peu près dans toute la France, de manière totalement bénévole, hein, parce que moi je n'ai rien à vendre, contrairement à Enedis, je fais pas du business. Donc il faut savoir que il y a des collectifs
une honte de
qui
faire...
naissent partout en France, voilà. Dans tous les quartiers, dans les communes, dans les départements, partout. C'est un bouillonnement dans toute la France face à ce programme totalitaire. Les gens n'en veulent pas, on veut nous les imposer de force. Et effectivement, ce qu'a dit Monsieur Monloubou, le propre président d'Enedis, eh bien, c'est le cri du cœur. Effectivement, il dit, Enedis est désormais un opérateur big data qui gérera bientôt 35 millions de capteurs.
Alors vos craintes,
millions de compteurs d'électricité qui veulent remplacer par des Linky pour en faire des capteurs qui vont capter toutes les informations sur notre vie. On parlait tout à l'heure de 1984 en introduction, ce roman d'anticipation où il y avait des appareils de surveillance dans tous les logements. Bien, écoutez, on y arrive. Alors, Linky n'a pas besoin d'une caméra pour savoir ce qui se passe dans notre maison, okay, puisqu'il va capter à peu près toutes les informations. Et donc, effectivement, il y a un double discours d'Enedis. Le discours pour les habitants et pour les élus. Et par contre, lorsqu'il s'adresse aux entreprises, eh bien, les dirigeants d'Enedis crachent le morceau, on va dire. Et reconnaissent que c'est ce business qui est vraiment leur objectif. Et d'ailleurs, je fais la différence. Madame Enedis, tout à l'heure, faisait référence à ces travailleurs qui vont sur les lignes réparer les poteaux quand il y a des tempêtes. Eux, ce sont des gens remarquables qui ont le service public au cœur, alors que les dirigeants d'Enedis sont là finalement pour faire la place pour les entreprises privées qui, une fois que les compteurs Linky seront dans nos logements, eh bien, viendront faire leur business. Et donc, c'est ça qu'il faut absolument refuser. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe sur tout le territoire.
Alors, Gladys Larose, donc par rapport donc à ces thèmes-là, parce que là donc c'est une bonne charge quoi. Mais enfin bon, c'est intéressant, c'est un débat donc voilà là-dessus. Oui, donc qu'est-ce que vous pouvez dire sur les données peut-être pour rassurer les gens? Est-ce que vous allez revendre tout ça? Il y a des gens qui flippent par rapport à ça donc.
C'est vrai. Moi je suis aussi une salariée du service public aujourd'hui et Enedis est une entreprise qui a une mission de service public. Il n'est pas question une seule seconde de revendre ces données. Quand on parle de big data, c'est parce qu'on va devoir gérer 35 millions de compteurs. On va devoir gérer 35 millions de données, là où avant on avait des données quand même, on avait toujours des données qui étaient des données personnelles, qu'on a protégées pendant des années. On a toujours protégé les données de nos clients et on continuera à les protéger.
De toute façon, globalement, la donnée, ça va être de savoir si moi, je consomme 2000 ou 3000 kilowattheures.
Ça va être de dire, votre maison, voilà, consomme un certain nombre de kilowattheures. Et puis,
on sait à telle heure
Non, on ne va pas savoir être capable de distinguer si vous avez allumé votre micro-ondes, votre frigo, etc.
Et ça, ce sera après. C'est si on se branche, s'il y a une start-up qui se branche après le compteur Enedis, ça, on pourra le savoir à ce moment-là.
Si le client dit, moi, je tiens à avoir une vision plus précise de ce que consomme chaque appareil de ma maison et choisis de mettre un petit boîtier derrière son compteur. Et là, c'est plus du tout Enedis. Là, c'est le client qui, avec une entreprise, avec son fournisseur
d'électricité... De toute façon, il y aura des offres, c'est ce que disait Stéphane.
Tout à fait.
Ils sont déjà dans les starting blocks, là, je pense.
Mais tout le monde est en train de réfléchir à des offres qui vont être des offres intéressantes. Ouais. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que quand on parle de ces données, on parle aussi des données qui vont être mises à disposition des collectivités de manière agrégée, de manière anonymisée, et ça va pouvoir permettre, par exemple à une commune, de mieux voir quel quartier consomme beaucoup, quel bâtiment consomme beaucoup, et de faire des économies. Et je voudrais quand même finir par quelque chose. On a posé 3 millions de compteurs en presque un an. On a des centaines de millions de personnes, on a des dizaines de millions de personnes qui vont être équipées d'ici 2021. Alors, c'est un déploiement qui se passe bien.
Ça, c'est sûr, à part que c'est parfois un petit peu au pas de charge, parce que donc ce sont des sous-traitants. On a eu un message qu'on ne va pas avoir le temps de passer, parce que sinon on ne va pas y arriver, mais qui disait, entre autres, c'était du côté de Biarritz, mais d'autres, qu'on forçait quand même un petit peu la main. Alors lorsqu'on est dans du collectif, de toute façon, les compteurs, mettons, s'ils sont à l'extérieur de chez vous, ils sont changés d'office. Mais lorsqu'on arrive chez vous, c'est-à-dire vous êtes dans votre maison, si moi je refuse d'avoir un compteur Linky, est-ce que vous me coupez le courant? Est-ce que vous me menacez de quelque chose? Je sais que c'est une obligation, mais c'est quoi la position d'Enedis par rapport à cela?
Alors vous avez raison. Le remplacement du compteur, c'est une obligation. Hein. Enedis,
c'est dans la loi de transition énergétique,
etc. Enedis, de par ses missions, doit avoir accès d'abord à ce matériel et doit pouvoir l'entretenir, le remplacer.
Pour des questions de sécurité,
c'est une opération d'entretien, de modernisation, donc on doit avoir accès à ce matériel de comptage. Quand les compteurs sont à l'extérieur des logements, les techniciens, les entreprises...
Bon, ça on a compris. Est-ce que si on refuse, si moi je refuse, allez...
En tant que particulier, vous avez le compteur à l'intérieur de votre domicile. Si vous ne nous ouvrez pas votre porte, je vais pas venir vous forcer la main pour ouvrir la porte. Ça, c'est clair. Je vais pas non plus vous couper l'électricité. Mmh. Mais par contre, je vais quand même, en tant qu'entreprise,
vous envoyez un petit mot, quoi.
Voilà, vous indiquez que c'est important de nous laisser accéder à ce matériel de comptage, que grâce à ce compteur, il y a des économies en perspective.
Alors,
sur certains services, sur certaines prestations, et c'est ça que je vais vous dire.
Les communes comme Saint-Macaire ont compris des arrêtés municipaux qui, après, de toute façon, peuvent être cassés, quoi qu'il arrive, parce qu'après, c'est le système juridique. Il y a aujourd'hui, Stéphane Homme, 300 communes, un peu plus, je ne me rends pas compte qu'ils sont... je ne me rends pas compte si, mais c'est les chiffres que j'ai, mais peut-être que ça bouge, qui refusent ce compteur Linky à peu près.
Oui, il y a plus de 320 communes actuellement, dont des très grandes villes comme Aix-en-Provence, 140 000 habitants, etc., qui refusent ces compteurs. Alors déjà, je précise une chose, c'est que plus de la moitié des compteurs d'électricité en France sont dans les logements, ce qui veut dire que plus de la moitié des gens peuvent refuser sans aucune difficulté le compteur, puisqu'ils sont protégés par la loi. Même si vous n'êtes que locataire, vous pouvez refuser l'accès de votre logement à Enedis, même s'il vient votre propriétaire. Hein. Et alors c'est là où on a tout un tas de menaces qui sont opérées par les sous-traitants qui sont envoyés par Enedis, qui disent on va appeler la police, vous allez avoir des amendes.
On a eu des retours un peu musclés, on est d'accord.
Qui n'est pas facturé, on vous le fera payer 300, 500 euros, 1000 euros, ils disent n'importe quoi pour faire craquer les gens. Ou alors, vous paierez une somme mensuelle, une pénalité mensuelle, et tout ça est complètement faux.
On a eu quelques... pardonnez-moi.
De l'intimidation, et on a même vu des gens, des sous-traitants d'Enedis casser des portes, bousculer les gens pour rentrer dans les logements pour poser les compteurs.
Alors, on va dire que c'est pas la majorité de l'espèce, mais en tout cas, ça existe, et il faut le dire. Incendie, il y en a eu aussi. Ça a été quoi? Des problèmes de serrage qu'il y a eu, Gladys Larose? Parce pareil, c'est pas la majorité de l'espèce, mais il y a quand même eu des pépins.
Oui,
quoi,
alors je rappelle quand même, encore une fois, 3 millions de compteurs posés. On peut décrire quelques cas où parfois... il peut y avoir des petits sujets avec l'entreprise de pose. Nous, on est vigilants, on est derrière. On fait des contrôles qualité sur le serrage. On fait des contrôles aussi qualité sur la relation client. Non, et moi, j'invite les clients qui auraient connu une mauvaise expérience avec une entreprise de pose, vraiment à le signaler à Enedis, parce que derrière, nous, on a un vrai traitement qualité. Donc ça, c'est la première chose. Sur le sujet dont vous parliez à l'instant, c'est-à-dire le sujet des incendies, c'est important pour moi de revenir sur quelque chose qui a été dit et qui est faux, c'est le compteur Linky ne présente aucun risque. Hein. Il a été testé chez les constructeurs.
Donc il a été mal posé, il y a un problème de serrage, c'est ça que vous dites. C'est pas le compteur en tant que tel.
Voilà,
c'est ça.
Ce qui peut arriver, c'est un incident d'origine électrique. C'est très très rare parce que nos entreprises de pose, elles sont formées, elles sont équipées de tournevis dynamométriques et tout a été fait pour que ce genre d'incident n'arrive pas.
Alors écoutez, il y a encore des tas de choses, je sais, à dire, mais on a essayé de débroussailler un petit petit peu les choses. Je vous remercie parce que vous êtes plutôt bien tenus tous les deux, donc merci à vous Stéphane Lhomme, non je plaisante, et aussi Gladys Larose. Il y a d'autres éléments, mais là ce que je vous propose, c'est de faire une pause. Alors on l'a pas fait exprès, hein, c'est votre nom, Gladys Larose, mais là on s'est dit, derrière cela il faut un mouvement d'apaisement, et ce mouvement d'apaisement, donc après la Saint-Valentin merveilleuse où vous avez offert plein de pesticides avec les fleurs pour votre chère étendre, et ben c'était le moment de revenir sur l'histoire de la rose avec un homme que vous connaissez par cœur et qui était Jean-Marie Pelt. Et ça commençait toujours de cette même manière, Jean-Marie.
Bonjour Denis, bonjour à tous. C'est les glandiers de nos buissons et de nos haies, bien que ça ne soit pas le véritable ancêtre de la rose.
Ah, qu'est-ce que c'est ?
Parce qu'il y a une bonne centaine d'églantiers sauvages et le nôtre n'est pas un de ceux dont les roses sont descendues. Alors, il faut savoir d'abord que ces églantiers existaient déjà il y a 50 millions d'années. Ces roses ont été énormément travaillées, sélectionnées, hybridées, modifiées. Les églantiers n'ont que 5 pétales. Les roses anciennes ont 5 pétales aussi. Mais beaucoup de roses ont évidemment beaucoup, beaucoup de pétales. Alors, comment on fait pour passer d'une rose qui a 5 pétales à une rose qui a beaucoup de pétales? Alors, ceci, c'est le fruit de la nature qui est capable de transformer des étamines en pétales. C'est-à-dire que plus il y a de pétales, moins il y a d'étamines. Et ce travail peut être accéléré par des produits chimiques, peut se faire aussi spontanément si on sélectionne des fleurs qui ont su transformer leurs étamines spontanément en pétales. Donc c'est une technique d'horticulture relativement banale. Ça fait partie de l'art de l'horticulteur.
Rappelez-nous ce que sont les étamines.
Ce sont les organes mâles qui produisent le pollen, qui contient les spermatozoïdes et qui féconderont l'organe femelle, qui est le pistil et qui contient les ovules.
Voilà.
Voilà. Ça marche comme ailleurs.
Quand on parle de la reine des fleurs, c'est pas du tout usurpé. C'était d'abord celle qui est préférée dans le monde. Enfin, je veux dire, on en voit à peu près sous toutes, enfin, pas dire sous toutes les latitudes, parce que ça m'étonnerait qu'en Sibérie on le trouve facilement, mais on la voit beaucoup, quoi.
Oui, on en est actuellement à quelque chose comme 20 à 30 000 variétés de roses.
Alors, Jean-Marie, maintenant, quand on rentre dans les histoires de roses, dans les mythes, il y a pas mal de choses à raconter.
Pour les Grecs, la rose était la fille d'Adonis, c'est un adolescent très beau, que Vénus avait pris sous sa garde, mais l'avait mis en nourrice chez une autre déesse qui était Perséphone. Perséphone, c'est la déesse des enfers. Quand on est chez Perséphone, on vit sous terre. Le jeune Adonis avait envie de sortir, mais Perséphone a envie de le garder près d'elle et a rompu le contrat. Moitié-moitié. Alors, on en a décidé que les dieux allaient trancher.
Donc, ils ont arbitré.
Ils ont tranché, ils ont arbitré, et on a dit, voilà, Adonis, un tiers avec Vénus, un tiers avec Perséphone, le dernier tiers, il fait ce qu'il veut. Pendant qu'il était avec Vénus, le malheureux a eu un accident de parcours en faisant la course à un sanglier qui l'a blessé. Vénus a accouru, elle a été très vite, elle s'est empêtrée dans un buisson de roses qui avait des épines, elle s'est piquée, le sang a coulé sur les roses qui étaient jusque-là que blanches et qui de la secousse sont devenues roses. Et c'est comme ça que la rose est devenue rose, ou rouge d'ailleurs.
Rose.
C'est l'origine de la couleur de la rose.
Quel a été le rôle des Romains dans la culture de la rose ?
Et les Romains avaient l'habitude de faire venir des roses d'Égypte, de cette région d'Égypte qui s'appelle le Fayoum, qui est un peu humide et où les roses poussaient très bien. Ils les mettaient dans des bateaux, ils les cueillaient pas encore complètement épanouies, seulement en boutons. Ça mettait une semaine pour la traverser. Et quand elles arrivaient, elles étaient très appréciées comme une fleur superbe, jusqu'au jour où les Romains se sont dit, voilà, cultiver nous-mêmes. Et alors, un des empereurs romains qui était entiché de la rose, c'était un extraordinaire personnage qui s'appelait Héliogabale, qui a régné sur Rome entre 218 et 222, 4 ans, c'était court, c'était un petit règne, il est vrai qu'il était timbré, il se promenait tout nu, il mettait des femmes nues pour tirer ses chars, il a cultivé des roses dans la baie de Naples, et alors dans cette baie de Naples, il a fait arracher les vignes. Et on l'a reproché beaucoup de faire partir les vignes et de mettre les roses à la place. Alors il a succombé à ses pressions, il a laissé quelques vignes et il a inventé le vin rosé. C'est comme ça, paraît-il, que le vin est devenu rosé par le contact avec les roses.
Lorsqu'on parle de la rose de Saint-Jean ou la rose de Damas, qu'est-ce que c'est ?
Alors ça, ce sont les roses qui sont venues étape par étape. Elles sont venues évidemment nombreuses après les croisades. Oui. Elles se sont réparties notamment en Champagne. Elles se sont réparties ensuite aussi en Grande-Bretagne. Il y a eu des roses qui étaient emblématiques de grandes familles anglaises. Quand il y a eu de la bagarre entre les Lancaster et les Tudor, il y a eu deux roses qui se sont opposées. On a dit c'est la guerre des deux roses. Mmh. Donc la rose a un rôle très, très important dans l'histoire de la royauté britannique.
Alors, cher monsieur, vous volez mes roses, qui sont ce que j'aime le mieux au monde.
Monseigneur, je ne savais pas. Je ne croyais offenser personne en cueillant ces roses pour ma fille qui m'en avait demandé une.
On ne dit pas, monseigneur. On dit la bête.
Et quand on parle alors de rosaire ou bien de rosace, lorsque l'on rentre dans une basilique ou une cathédrale, on peut s'en rendre compte.
Oui, alors il y a eu évidemment autour de la rose toute une symbolique d'abord païenne, parce que la rose a été considérée comme un symbole d'érotisme. Et puis, comme tous ces symboles, ils ont été peu à peu christianisés. Et alors la rose est devenue une plante de la Vierge Marie. D'ailleurs, à Lourdes, la Vierge Marie est apparue avec deux roses sur ses pieds, à côté d'un églantier, d'ailleurs, qui, d'ailleurs, dans la grotte, est toujours là et que l'on voit très aisément. Le rosaire, ça a été l'idée d'envoyer dans la prière à la Vierge 50 roses, c'est-à-dire 50 « Je vous salue, Marie ».
D'accord.
Voilà. Et puis, il y a aussi les rosaces, qui sont en forme de roses. Et puis il y a aussi les rosaires qui sont des dames de prière, donc le mot rose a été très présent.
C'est une plante qui est quand même assez résistante, la rose.
C'est une plante qui peut être très résistante. C'est même probablement la seule plante qui est capable, en très bonne santé, de fleurir sur la bande centrale d'une autoroute.
Alors justement, prenons l'autoroute, allons en direction de Provins, et là on connaît la rose de Provins, donc ça vient des comtes de Champagne, c'était Thibaut IV, je crois.
Absolument, c'est ce qu'on appelle la Gallique, c'est ce qu'on appelle la première rose de France. C'était la rose symbolique qui a été reconnue comme telle après les croisades.
D'accord.
Et elle est venue effectivement du Moyen-Orient, du Proche-Orient.
Je crois qu'on a un beau bouquet.
Là. Oui, c'est bien. Et puis c'est botanique pour le coup aussi. Hein. Oui, il y a les deux.
Mais les deux, c'est voilà. Ce que vous aimez. Donc à la fois l'histoire et la botanique, et nous aussi. Merci Jean-Marie, à très bientôt.
Au revoir Denis, au revoir à tous.
Voilà, petit plaisir que de retrouver Jean-Marie. Nous parlons donc des roses. On va terminer en faisant un petit tour du côté d'Haïti. Pourquoi ? Parce que vous avez la deuxième édition de Cinécolo à Haïti. Plus de 28 000 km², 11 millions d'habitants, très forte densité, la moitié de la population a plus de 20 ans et on sait que c'est une île du diable, entre guillemets, qui est reine des séismes, des ouragans, de la pauvreté. 98% de la couverture végétale a disparu. Et donc, il y a un garçon d'une trentaine d'années qui se bat avec Cinécolo Haïti du 18 au 25 février partout dans l'île qui s'appelle Mécerne Sagesse. Et quels sont on les rappelle, vos problèmes environnementaux, Mécerne?
La dégradation des sols, il y a l'insalubrité, malheureusement, la question de déchets plastiques, ça, c'est encore un grand problème. Donc, c'est un ensemble de choses qui ont des impacts encore très négatif sur l'environnement. Donc c'est quand même des choses qu'il faut fait. En tant que responsable, en tant que citoyen, je dirais qu'il faut agir rapide et bien pour faire en sorte qu'on pallie la situation et pour revenir au mieux.
Voilà. Messieurs de sagesse, vous êtes un jeune garçon. Vous avez créé ce festival Cinécolo. Qu'est-ce qui vous anime profondément ?
Je suis guidé par un sentiment d'éco-citoyenneté. Donc c'est d'abord quelque chose que j'ai appris tout petit de mes parents. Maintenant là, je me suis dit, ben, je dois m'engager en tant que citoyen et je dois faire quelque chose. Je dois quand même marquer mon passage, ma génération avec les jeunes. D'accord ? Et ensemble, on doit travailler pour laisser quelque chose aux générations futures.
Mais Sam Sagesse, envoyez-nous quand même un petit signe d'espoir de Haïti au milieu, on va dire, des décombres que vous avez connus.
D'abord, il y a une bonne nouvelle. Le Parlement haïtien, en Assemblée nationale, vient de ratifier l'accord de Paris sur le changement climatique. Donc ça, c'est un bon point pour le pays. Et puis tout de suite, on aura, à partir du 18 février, un grand festival du film de l'environnement du pays, donc à travers le pays, à travers 9 départements du pays. Et puis, comme ça, la population commence à comprendre la nécessité d'agir, comprendre les phénomènes environnementaux et pourquoi pas agir dans le sens de modifier, sinon de réconcilier le rapport avec l'environnement.
Petit éclairage donc à la fois sur ce Cinécolo et Messerne Sagesse qui se bat, faut l'imaginer, allant dans les communes pour présenter donc ces films et sensibiliser donc les gens à l'érosion qui est une véritable catastrophe, on s'en doute. Voilà, donc c'était notre petit clin d'œil vraiment à Haïti aujourd'hui. Merci à France Bleu Gironde, à Didier Fouché qui était donc là-bas à la technique, à Théo Goumard et Nicolas Slimani chez nous, Camille Blanès, notre assistante, Xavier Pessugia qui a réalisé l'émission. On n'a passé qu'un disque là, Muriel Pérez, on est désolé. Anne Gouzon qui a nourri donc les sites. Semaine prochaine, on parlera d'agroforesterie. Ouais, on ira dans le département du Gers, entre autres, avec Alain Canet. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter alors une bonne route si c'est le cas, un très bon week-end, mais oui, tout à fait tranquillement. Et puis je vous retrouverai grand plaisir pour la tulle du Mont Petit Loup. Ce sera à 19h54 demain après les petits bateaux. Bon week-end à tous et dans quelques instants, Emmanuel Kiran et la librairie francophone.
CO2 Mon Amour avec le WWF. Rejoignez la première organisation indépendante de protection de l'environnement au monde. Plus d'infos sur les dons, legs et assurance vie sur www.fr.